On va ouvrir ce quatrième et dernier bloc avant la table ronde. Donc, du coup, oui, on va commencer par Jules Falquet. Voilà. Et professeur des universités en philosophie et membre laboratoire d'études et de recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie à l'Université Paris 8. Elle a vécu au Mexique et au Salvador et travaille dans une perspective féministe et d'imbrication des rapports sociaux sur la résistance à la mondialisation des différents mouvements sociaux latino-américains et des Caraïbes, mouvements révolutionnaires indiens et paysans de femmes féministes et lesbiennes, confrontées à des situations de guerre civile révolutionnaire et de post-guerre, mais aussi de montée des narcotrafics et des violences diverses. Elle analyse les récompositions néolibérales de la violence autour des violences masculines contre les femmes et de leur continuité avec différentes logiques de guerre. Voilà. Donc, quand tu veux.
Bon, merci beaucoup. Merci à toi, Laura, d'avoir organisé et à toutes les autres personnes qui ont contribué à l'organisation matérielle, intellectuelle, politique et tout ça. Et puis merci à toutes les personnes qui sont dans la salle, qui tiennent bon malgré la dureté voilà, de ce dont on parle. Donc, merci beaucoup. Et je voulais aussi, donc l'intervention s'appelle Les femmes peuvent-elles consentir à l'hétérosexualité? Mais je voudrais savoir aussi, et comme tu viens de le mentionner, ça m'est d'autant plus facile, je dirais aussi, pouvons-nous consentir, ou plutôt comment pouvons-nous ne pas consentir aussi aux violences de guerre, comme tu as parlé de guerre, donc la guerre à Gaza, la guerre coloniale en Kanaky, la guerre au Soudan. Je voudrais juste qu'on garde en tête que c'est en train de se dérouler pendant que nous sommes là et que, en fait, personnellement, en tout cas, j'espère que la justice, notamment territoriale, va très bientôt advenir et mettre un terme à ces confrontations armées. Voilà, pour le dire d'une manière ou d'une autre. Je vais aussi situer un tout petit peu plus mon point de vue dans le. Ça me semble important. Pour vous donner plus d'éléments pour comprendre éventuellement ce que je vois, ce que je vois pas, d'où je parle, etc., pourquoi je m'exprime comme je l'exprime. Donc, je voudrais très rapidement situer mon point de vue dans les rapports sociaux de sexe, de race et de classe et me situer sociologiquement et politiquement. Et dans les rapports sociaux de sexe, donc préciser que quand je suis née, j'ai été considérée comme femelle devant devenir une femme. Dans les rapports de race, j'ai été considérée comme blanche de nationalité. J'ai obtenu sans beaucoup d'efforts la nationalité française dès ma naissance, donc pays du Nord, troisième producteur et exportateur mondial d'armes et de doctrine militaire. Donc, je pense que ça a un sens assez fort. Et dans les rapports sociaux de classe, mes parents étaient de classe privilégiée. J'ai moi-même fait des études qui m'ont amené à ce poste de professeur des universités qui me maintient d'une manière ou d'une autre dans une position privilégiée. Ça, c'est sociologiquement ou socialement. Et puis, qu'est-ce que j'essaye de faire avec ça? Donc, politiquement, en ordre inverse, dans les rapports de classe, j'essaye de participer à la lutte contre le capitalisme et les rapports de classe dans le mode de production capitaliste néolibéral à l'heure actuelle. Dans les rapports de race, depuis ma position de personne blanche et de pays du Nord, premier monde, impérialiste, colonial, vous connaissez. J'essaie de participer aux luttes anticoloniales, antiracistes, anti-islamophobes, anti-antisémites, anti les autres formes de racisme. Et du point de vue des rapports sociaux de sexe, je me positionne non seulement comme féministe, mais aussi comme lesbienne, au sens que Monique Wittig a donné à ce terme, c'est-à-dire une personne qui tente de combattre l'idéologie de la différence sexuelle. Non seulement d'échapper individuellement à la position de membre de la classe des femmes, mais surtout de combattre l'existence même de cette différence et de cette appropriation de la classe des femmes, des membres de la classe des femmes par les membres de la classe des hommes. Voilà, en quelques termes très rapides. Et je voudrais, pour parler de est-ce que les femmes peuvent consentir à l'hétérosexualité, donc rapidement rappeler justement ce que. À mon sens, Wittig appelle l'hétérosexualité. Rapidement aussi rappeler ce que c'est, à mon sens, que les femmes, et puis donner quelques éléments pour réfléchir à ça. Donc, est-ce que tout va bien jusqu'à présent? Et si je, si je dis des choses qui vous rappellent des mauvais souvenirs, donc n'hésitez pas à m'arrêter ou à faire quelque chose pour me dévier, mais je vais essayer de pas le faire. Donc, la première chose, c'est l'hétérosexualité, au sens où je l'entends et je m'appuie sur ma compréhension de Monique Wittig, l'hétérosexualité, c'est pas les pratiques sexuelles individuelles, c'est pas les pratiques génitales, c'est pas le sentiment amoureux, c'est pas le couple, une femme et un homme, c'est ce qu'elle appelait la pensée straight, c'est une idéologie et c'est une réalité matérielle à la fois, c'est les deux faces d'un même, d'une même chose. Et donc, c'est d'un côté l'idéologie de « il existerait une différence absolue, totale, naturelle, primordiale entre des gens qu'on appellerait des femmes et des gens qu'on appellerait des hommes, et ou des femelles et ou des mâles, et puis qui sont complémentaires. » Et c'est aussi donc une pratique concrète, un système social que Colette Guillaumin, qui à mon avis, qu'il faut lire en même temps que Wittig, ou à côté en tout cas, Colette Guillaumin a appelé ça les rapports d'appropriation, les rapports sociaux de sexe, les rapports d'appropriation, une appropriation qui est à la fois privée et aussi collective de ces personnes qu'on appelle les femmes par ces personnes qu'on appelle les hommes. Il ne s'agit pas bien sûr de particulariser individuellement, mais il s'agit de comprendre cette logique. Et c'est une appropriation qui est vraiment, j'insiste, non seulement dans le cadre, par exemple, du couple, du mariage, etc., mais qui va bien plus loin que ça et qui inclut, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, Colette Guillaumin place par exemple la prostitution ou le travail du sexe dans le cadre de l'appropriation collective et le mariage dans le cadre de l'appropriation privée et peut-être aussi, on y reviendra, mais pour moi je considère qu'il s'agit d'un continuum et c'est aussi de ça dont je voudrais parler. Donc voilà, l'hétérosexualité c'est aussi et avant tout l'altérisation de ces hommes particuliers que l'on appelle des femmes. C'est ce processus d'altérisation, c'est cette idée que nous serions différentes de quelque chose qui serait, qui n'aurait pas besoin d'être questionné. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire d'autre ? Je pense que voilà, ça, c'est grosso modo l'essentiel. Éventuellement, on peut y revenir. Qu'est-ce que c'est maintenant qu'une femme ou qu'est-ce que sont les femmes ? Je voudrais juste, d'un point de vue, donc je me place d'un point de vue féministe matérialiste et aussi de l'imbrication des rapports sociaux. Et donc, il est bien, enfin, j'espère qu'il est bien évident pour vous que je ne suis pas en train de parler de personnes qui seraient des femelles, mais je suis en train de parler donc d'une catégorie, d'une construction sociale, donc c'est pas basé sur quelque chose de naturaliste. Et puis aussi, surtout, je pense qu'il est très important de garder à l'esprit la diversité des situations de ces personnes qui sont placées dans les rapports sociaux de sexe du côté des femmes. Donc en fait, notamment la diversité des positions et les rapports de pouvoir imbriqués, que moi j'appelle imbriqués, que d'autres appellent intersectionnels, la classe, la race, et puis dans une autre mesure de mon point de vue, ça se discute, mais en tout cas, il y a aussi des positions différentes selon l'âge, selon la validité, selon beaucoup d'autres critères encore, mais je pense que l'âge, vraiment très important, la domination adulte, on ne peut pas la laisser de côté, même si je ne la traiterai pas sur le même plan que la classe et la race, et tout ce qui a trait à la validité dans toute sa complexité, en fait, je pense que c'est aussi impossible de la laisser de côté. Donc cette diversité des positions à l'intérieur même du groupe qu'on appelle les femmes et d'ailleurs aussi à l'intérieur même du groupe de ceux qu'on appelle les hommes, avec une complexité du coup que ça produit dans les phénomènes sociaux. Voilà, comme on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais surtout revenir sur la question de céder, consentir. Donc, quand céder n'est pas consentir, pour moi, ce que ça m'évoque, donc premièrement et avant toute chose, c'est ce très important, très beau et très complexe article de l'anthropologue Nicole Claude-Mathieu, que je pense vous connaissez, ça a été déjà un petit peu dit, mais vraiment, ça me semble, et ce qui me semble tout particulièrement intéressant dans sa réflexion, c'est, et c'est sur ça que je veux insister, c'est sa mise en lumière de la violence et de la peur que provoque la violence dans la situation des femmes. Je pense que ça a été dit de plein de manières, ça a été dit par les intervenantes et les intervenants, ça a été dit par le public, notamment tout à l'heure à propos de la, disons, de l'énonciation très directe des violences. Mais je pense que c'est ça, je pense que c'est très difficile à la fois de parler de sexualité et puis de tout ce qu'il y a autour et des questions de consentement si on laisse de côté le fait que dans les sociétés occidentales contemporaines, au moins, plus loin je ne sais pas, mais au moins dans les sociétés occidentales contemporaines, il existe une énorme pratique de violence contre les personnes qu'on appelle les femmes et aussi d'une autre manière contre les personnes qu'on appelle les hommes, dès l'enfance, et des violences donc, que j'appellerais pas forcément des violences sexuelles, que j'appellerais des violences génitalisées. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment important de faire la différence. Ils nous disent que c'est de la sexualité. Nous disons, en tout cas, je dis en tant que féministe et en tant que lesbienne, que c'est de la violence. Je la mets pas dans la sexualité, je la mets clairement dans la violence. Et donc, comme l'a dit Annie tout à l'heure, j'ai écrit un article où j'essaye de réfléchir sur les logiques de la torture et les parallèles qu'on peut établir entre, bon, c'était les violences domestiques et la torture, mais en fait aussi entre les violences génitalisées et les formes de torture reconnues comme des formes de torture politique. Alors, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail de ces formes de torture, mais vraiment, je pense que c'est très important. Enfin, ça me paraît une erreur, disons, de parler de sexualité, de parler de consentement, de parler de tout ça, sans rappeler ces violences, encore une fois, dès l'enfance, donc notamment des violences incestueuses au sein de la famille même, ou des violences... je ne sais pas exactement comment les appeler, semi-incestueuses parmi les proches, les institutions notamment scolaires, religieuses, sportives, etc. Et j'insiste aussi sur le fait que, notamment pour des personnes qui seraient par exemple des personnes racisées, il y a vraiment une très très forte importance des violences institutionnelles, des violences génitalisées dans un cadre institutionnel, comme par exemple dans le cas des pensionnats, auxquels sont soumis notamment des populations autochtones. Ça peut être le cas au Canada, au Québec, ça peut être le cas aux États-Unis, en Australie. C'est des exemples, mais pour dire que la violence sexuelle et la pédocriminalité, donc incestueuse ou proche de l'inceste par des personnes ayant autorité, c'est vraiment quelque chose de systématique et... d'institutionnel. Je voudrais dire aussi très rapidement peut-être une autre chose. C'est que, je ne sais pas si j'ai le temps de le dire, mais je vais quand même lancer la piste. Il me semble que, bien évidemment, les personnes qui sont considérées comme des petits garçons font également l'objet de ces violences génitalisées. Moindrement, apparemment, selon les chiffres et selon nos expériences aussi, moindrement que les personnes considérées comme des fillettes. Mais, et ce n'est pas pour diminuer l'effet de ces violences, mais je pense que l'effet est très différent, c'est-à-dire un autre élément très important de la réflexion sur les violences, c'est que leur effet est différent selon le cadre dans lequel ces violences sont exercées, selon si l'on sait ou pas que ces violences seront impunies pour les personnes qui en font l'objet. Je ne dis pas, je n'utilise pas le terme victime, mais pour les personnes qui en font l'objet, ce n'est pas du tout la même chose de se dire « je suis violentée, mais ensuite je pourrais devenir... je pourrais sortir de la violence, enfin ne plus être violentée et même peut-être exercer de la violence, ou en tout cas en subissant cette violence maintenant et en l'acceptant et en me la fermant, je sais qu'après je deviendrai par exemple un homme adulte et que je pourrai tout à mon aise faire ce que je veux et notamment par exemple aussi violenter d'autres personnes. C'est pas du tout la même chose qu'une petite fille qui sait qu'elle subit de la violence et puis ensuite elle continuera à en subir dans le mariage, c'est normal, et puis elle apprendra à ses propres filles à continuer à subir, etc. Donc en fait... Donc je ne minimise pas les violences vécues par les hommes, les petits garçons, les personnes considérées socialement comme des petits garçons, violences génitalisées dès l'enfance. Je pense qu'elles sont très nombreuses et très significatives, mais par contre, je pense que l'effet qu'elles produisent, je pense que les violences produisent les effets psychiques et les effets politiques et sociaux ne sont pas du tout les mêmes parce que les petites filles et les petits garçons se projettent dans des avenirs complètement différents. Est-ce que ce point est... vous paraît, et je pense que c'est très important. Donc, par contre, pour les petites filles, il me semble assez clair qu'aujourd'hui, je répète, aujourd'hui, dans les sociétés occidentales contemporaines, ce que nous savons, c'est que, bon, il y a MeToo qui représente un espoir, et il y a des transformations, le mouvement féministe, le mouvement lesbien et d'autres mouvements qui représentent un espoir de changement, mais nous savons encore qu'à l'heure actuelle, le plus probable, c'est que les personnes qui nous agressent ne seront pas inquiétées ou très peu, et qu'on risque de continuer à être agressées, violentées, à la fois de manière génitale et d'autres manières, et notamment des violences économiques, et notamment des violences racistes. C'est un continuum de violences, en fait. Je pense que ça réduit notre panorama que de ne voir que les violences contre les femmes, que les violences dans une ligne des rapports sociaux de sexe. Donc, nous savons que ces violences risquent fort de perdurer et il y a tout un tas d'effets. Je ne vais pas rentrer, je ne suis pas psychologue, psychanalyste. Je ne vais pas rentrer maintenant, ce n'est pas ma spécialité quand même, sur les effets psychodynamiques de la violence, mais ils sont très nombreux, très profonds, très durables. Et il y a aussi donc des effets collectifs de la violence exercée contre les femmes. Et notamment, parmi ces effets, il y a la création de séparation et de sentiments d'isolement. Et ça, je pense que la séparation, on l'a très bien vu s'illustrer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une violence, la violence faite par l'homme qui a violé Annie Ernaux, elle continue à faire un effet sur nous et elle provoque des tensions entre des personnes qui sont en fait, j'imagine d'une manière ou d'une autre, qui se revendiquent du féminisme et qui se revendiquent d'une certaine manière comme des femmes. On continue à être divisé par cette violence. Donc ça, c'est un effet collectif et à long terme d'une violence qui s'est déroulée il y a, je sais pas, maintenant 70 ans. Voilà. Je pense que c'est intéressant de garder ça en tête. L'autre chose sur laquelle je voulais insister peut-être encore un tout petit peu, c'est les effets de la peur. Je pense que c'est vraiment, disons, c'est en quelque sorte une... ça pourrait être considéré comme un effet psychodynamique, mais je pense que même de manière plus générale, disons que comment pouvons-nous sereinement réfléchir à consentir ou sereinement aborder les relations amoureuses et sexuelles avec cet énorme poids de la peur introjectée depuis nos premières semaines, on va dire. Et à la fois les souvenirs de violences sexuelles ou l'amnésie, mais disons le vécu des violences, et la peur qu'elles nous arrivent. C'est-à-dire, il ne suffit pas de ne pas les avoir vécues, mais il faudrait pouvoir être sûr de ne jamais les vivre. Or, au contraire, nous sommes tout le temps dans la crainte qu'elles adviennent de nouveau ou qu'elles adviennent. Donc je pense que vraiment ces deux éléments, la réalité de la violence et la crainte de la violence, sont deux énormes dimensions qui devraient être présentes à notre esprit dans la réflexion sur le consentement. Peut-être parmi les dernières choses que je voulais dire... peut-être insister un petit peu sur le travail de Paola Tabet, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais quand même le rappeler. Donc Paola Tabet, anthropologue italienne, dans la même perspective, un petit peu à la fois que Nicole-Claude Mathieu, que Guillaumin, que Wittig, a développé une réflexion sur ce qu'elle a appelé le continuum de l'échange économico-sexuel, en montrant bien qu'il n'y a pas d'un côté les bonnes épouses qui sont tranquilles et qui vivent une sexualité heureuse et sereine dans le cadre du mariage, etc. Et de l'autre côté, les mauvaises prostituées ou travailleuses du sexe qui vivent un enfer dans des pratiques sexuelles atroces, etc. Mais qu'au contraire, et je ne sais pas si heureusement ou malheureusement, en tout cas au contraire, la plupart des personnes considérées comme des femmes se retrouvent quelque part entre les deux et éventuellement... naviguent entre les deux leur vie durant, mais une chose qui est importante quand même à signaler dans cette conceptualisation du continuum de l'échange économico-sexuel, c'est que Paola Tabet se réfère, elle dit, à des conditions. Elle n'analyse pas ça dans le vide, elle analyse cela dans des sociétés où il y a trois phénomènes. Ça va vous rappeler quelque chose que je viens de dire. Premier phénomène, les gens qu'on appelle les femmes sont privés d'accès aux moyens d'existence, ou leur accès aux moyens d'existence sont fortement réduits, c'est-à-dire, grosso modo, elles sont pauvres, elles n'ont pas d'accès à la terre, elles n'ont pas d'accès à des activités professionnelles bien rémunérées. Voilà, donc la situation matérielle des défavorisés, en quelque sorte, par rapport aux hommes. Deuxième élément, elles sont relativement privées d'accès à la connaissance, notamment à la connaissance sur leur corps et sur la sexualité, mais pas seulement, aux connaissances en général, à la langue, aux informations, aux journaux, à tout ce que vous voulez. Donc, moindre accès à la connaissance, mais c'est vrai que le moindre accès aussi à la connaissance, même du vocabulaire de la sexualité, du vocabulaire du corps, et à plus forte raison des mécanismes de la procréation, etc. Bon. Tout ce manque d'accès aux connaissances. Et troisième élément dans lequel, à ce moment-là, il y a le continuum de l'échange économico-sexuel, c'est justement la menace permanente de la violence et l'exposition concrète à la violence. Donc, quand il y a ces trois conditions, alors les personnes qu'on appelle femmes dans une société donnée, elles n'ont pas beaucoup d'autres alternatives que de rentrer dans ce que Paola Tabet donc appelle l'échange de l'échange économico-sexuel, c'est-à-dire réifier leur sexualité. Sexualité, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, réifier ça. Tabet dit ce qu'elles ont entre les jambes, l'échanger contre ce dont elles ont besoin pour survivre et en général aussi pour faire survivre les enfants dont elles ont la charge, qui sont placés à leur charge. Et aussi souvent les personnes, par exemple âgées et malades dépendantes, qui sont également placées à leur charge. Donc voilà, c'est ça, c'est ce continuum de l'échange économico-sexuel dans lequel, quand même, malgré tout, me semble-t-il, aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, vivent beaucoup de ces personnes qu'on appelle les femmes et se retrouvent ces personnes à consentir ou pas. Du coup, ça n'a plus beaucoup de sens, si vous comprenez la démonstration. Cette question du consentement, finalement, elle est assez profondément viciée. Ça ne veut pas dire que les personnes qu'on appelle les femmes sont des pauvres créatures et que tout est fini. Que c'est désespéré, mais ça veut dire que quand même, il me semble qu'il faut prendre en compte de manière très sérieuse et très profonde ce qu'on appelle l'oppression, ou ce que Colette Guillaumin nomme et analyse plus précisément comme l'appropriation des femmes. Voilà, dans toute cette discussion, il me semble qu'il faut... Il me semble intéressant, en tout cas, de ramener cette problématisation générale avant d'examiner la manière dont nous pouvons, individuellement et collectivement surtout, élaborer des stratégies pour malgré tout vivre, prendre du plaisir, y compris du plaisir sexuel, et transformer la réalité. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup, Jules. Très intéressant. Si vous êtes d'accord, on va faire comme tout à l'heure, on va donner la parole aux trois conférences et après on fera un moment de parole partagée. D'accord ? Donc, je passe à la suite, c'est Mélanie Jaoul, à qui je remercie énormément parce que c'était une des premières à se lancer dans cette aventure. Maîtresse des conférences en droit privé et en sciences criminelles à l'Université de Montpellier, membre du laboratoire des droits privés, chercheuse et associée au CERMOUD, féministe intersectionnelle, présidente des ATAT, Association alliée des travailleurs et travailleuses du sexe. Quand tu veux, Mélanie. Merci.
Déjà, j'aimerais te remercier d'avoir pris cette journée pour confronter des points de vue qui, vous le constaterez quand je vais parler, peuvent être un peu divergents et pas forcément partagés, mais reste la liberté académique et le respect inhérent aux échanges académiques. Moi, je vais parler d'un point de vue situé à double titre. Je pensais le dire plus dans la table ronde, mais pour vous positionner, effectivement, j'ai créé une association d'alliés des travailleurs et des travailleuses du sexe. Je fais du terrain avec une file active. J'accompagne aussi bien du suivi de travailleuses du sexe prostitutionnelles, pour reprendre les termes, que des actrices. Et oui, je dis actrices puisqu'il y a aussi des hommes dedans, des actrices porno, dans le plaidoyer pour leurs droits et l'accès à leurs droits effectifs et la défense de leurs droits. Le viol est inhérent au porno. Voilà les mots d'une porte-parole d'une association lors d'une parution de Tribune contre l'industrie du porno en 2020. L'anathème est jeté sur le porno, le avec un en majuscule, il serait inacceptable par essence, puisqu'il serait une industrie nécessairement patriarcale, dont le viol est l'essence, qui promeut une image dégradante des femmes. Effectivement, quand on prend le porno sous cet angle-là, stop, il n'y a plus de débat possible, il n'y a plus d'enjeu. Effectivement, si le porno c'est le viol, je suis contre le viol. Je préfère vous spoiler. Le viol, c'est mal. C'est mal moralement et c'est mal juridiquement. Ayant été aussi victime de viol, j'en sais quelque chose. Ces affirmations sont pas nouvelles. Je les comprends, je comprends les antagonistes. En réalité, ça remonte aux années 70, ce qu'on a appelé les féministes sex war, avec deux antagonismes entre les féministes pro-sexe, alors moi je préfère le terme pro-droit, qui défendent l'idée que le travail du sexe est un travail, qu'il soit pornographique ou prostitutionnel, et les féministes radicales qui voient dans le dans la prostitution ou les situations de ces personnes de prostitution, des victimes qu'il faudrait sortir d'un système prostitutionnel. Pourtant, il me semble que considérer le viol comme inhérent à la pornographie, c'est ni juste juridiquement, ni juste d'un point de vue féministe, mais là, sur ce deuxième point, ça n'engage que moi. Pourquoi cela me paraît problématique ? Parce que la pornographie, à l'instar de toute la société, connaît en son sein des agresseurs et des violeurs. On ne nie pas les phénomènes et les affaires récentes le démontrent. La pornographie laisse prospérer des violences sexuelles en son sein et le monde de la pornographie offre des représentations sexistes. Mais je trouve que d'ailleurs dans cette journée, on n'a pas interrogé toutes les représentations dans le biais, et notamment, elles véhiculent aussi des positions racistes, discriminantes. Et oui, à l'instar de toute l'industrie cinématographique, il y a une culture du viol. Mais comme dans la société, dans son ensemble. Et je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt en disant que ça n'existe pas. C'est un fait. Par contre, la pornographie, à mon sens, ce n'est pas que cela. Et si on lit, moi je me réfère à des autorités plus autorisées que moi sur les porn studies, par exemple l'introduction de François Ronan Dubois, il explicite très clairement, il explicite qu'il y a une sursexualisation dans la société, sursexualisation par l'exégèse, la starification de certaines actrices porno, par des scènes très pornographiques. Je vends un yaourt avec une meuf à poil. Je vois pas ce que la meuf à poil apporte au yaourt, mais a priori, les publicitaires l'ont compris. Je regarde une série HBO. Il y avait une petite pub sur HBO. Oh, tu tournes dans un porno, c'est horrible. Mais non, c'est une série HBO. Le sexe, il est partout. Donc, je me suis dit, comment j'interroge les choses. Et moi, j'ai une vision que je considère pratique. Mon constat, pour moi, et je conçois que vous ne soyez pas d'accord, le porno et plus largement la prostitution existeront toujours. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal, je ne me place pas d'un point de vue moral. Ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce que je fais pour m'assurer que les personnes qui pratiquent le travail du sexe, qu'ils soient porno ou prostitutionnels, même combat, soient vraiment à la place où elles ont envie d'être, dans un continuum de consentement, c'est-à-dire je rentre dans le porno, je peux en sortir à tout moment. Comment je fais pour leur garantir le respect de leurs limites et comment je fais pour garantir leur droit à l'image et la prise de contrôle sur leur droit à l'image et pendant et après une vie dans le monde pornographique. Donc deux enjeux, qualification du porno. Alors je le développerai à l'écrit parce qu'on a peu de temps. Mais le porno, en réalité, il n'est pas défini dans les textes. Il a été défini par le Conseil d'État suite à un rapport Genevois, parce que le porno, le seul enjeu que le droit s'est posé jusqu'ici, il faut dire ce qui est, l'État, le droit se fout des acteurs et des actrices porno, mais du monde du porno, si ce n'est pour les fiscaliser. Hein. Alors là, n'oubliez pas de déclarer la TVA pour les producteurs et les revenus pour les actrices et les producteurs aussi, mais il se fout du porno. Le seul enjeu des textes, ça a été de savoir quelle est cette pornographie qui peut pas être vue par les mineurs, et ça c'est un enjeu majeur, le porno c'est pour adultes, soyons clairs, et quel est l'enjeu aussi de ne pas financer avec des deniers publics des films porno, donc les soumettre à des textes spécifiques pour pas que le CNC finance et pour pas que les deniers publics subventionnent des films à contenu X. Donc, le porno, c'est la représentation de choses obscènes, sans préoccupation artistique dans le dictionnaire, avec l'intention délibérée de provoquer l'excitation sexuelle du public auquel elles sont destinées. Si vous regardez le Conseil d'État, lui, il dit « le film est pornographique Il montre des scènes de sexe non simulées à visée masturbatoire. Donc, deux enjeux. On n'est plus sur artistique. Je confie que, pour connaître un peu le milieu, les biais de narratif du porno sont souvent pauvres et que c'est vrai que j'ai du mal à défendre le côté artiste dans le certain porno. Oh, un plombier. Oh, bonjour. C'est vrai, l'arc narratif est relativement pauvre. Mais il y a du porno qui aujourd'hui existe et on en a besoin pour d'autres sexualités, d'autres représentations, du porno féministe, du porno lesbien, du porno queer. Et censurer tout le porno, pour moi, aboutirait à priver les communautés marginalisées de représentations dans lesquelles on peut s'épanouir et se construire en termes d'identité. Donc, deux enjeux. Moi, vous aurez compris, je ne me place pas sur la morale. Les kinks des gens, je ne les juge pas. Deux enjeux, la différence entre le réel et le représenté. Alors moi, c'est un débat, peut-être que je suis une béotienne hein, et que je suis une mauvaise féministe. J'ai découvert quand j'ai commencé à parler du porno et du TDS que je n'étais pas féministe. Jusque-là, j'étais une féminazie. Et le jour où j'ai parlé TDS, on m'a dit « tu n'es plus féministe ». Alors j'ai compris que j'avais passé le Rubicon. Mais pour moi, le porno, mais comme tout film, c'est pas la vraie vie. Quand je vois une scène de porno, je vois deux acteurs, ou plus, selon ce que je regarde, qui ont défini avec le réalisateur un scénario. On ne juge pas la pauvreté et la qualité artistique. Et le réalisateur, qu'est-ce qu'il dit ? Ben voilà, on va faire une scène. Alors, je suis désolée, je vais parler un peu de sexe concret. On va faire un plan à trois, deux madames et un monsieur. OK, super, classique. Classique shit. Vous allez pomper monsieur en le regardant super excité, alors qu'il est vraiment physiquement pas très affriolant. Mais tant pis, on y croit, vous êtes super déter. Et on fait les trucs basiques. Et on va définir les scènes, les acteurs, les pratiques, admises ou pas. C'est du mythe. Moi, je ne juge pas. Vous représentez une scène de viol, je ne vois pas. Quand je regarde un porno, je n'aime pas les scènes de viol. Je n'irai pas voir des scènes de viol. Mais ce n'est pas un viol que je vois, c'est quelqu'un qui mime un viol. Mais comme quand je regarde Irréversible, je n'ai pas vu un viol, même si j'ai dû couper la scène trois fois pour arriver à la passer. C'est extrêmement violent, mais c'est une représentation. Je sais que Monica Bellucci ne se fait pas violer dans ce film. Je sais que quand je vois une scène porno, quand les choses sont faites correctement, elles ne se font pas violer, les actrices. Là où il y a des viols, ces films-là doivent être retirés immédiatement du marché et les auteurs de viols et les complices producteurs doivent être poursuivis selon les textes du code pénal. Et en plus, pour le coup, on a des preuves, on a des vidéos. Super, ben, produisons les vidéos devant les tribunaux. Donc, moi, je suis pour distinguer clairement ce qui est un viol de ce qui est une représentation. Je ne juge pas. Donc, le premier enjeu, c'est représentation versus réel. Mais le deuxième enjeu qui, pour moi, est le plus important, c'est celui sur lequel je travaille beaucoup, c'est comment je fais pour m'assurer que il y a du consentement. Moi, je sais que ça fait quelques années que je travaille avec des amis et des actrices porno qui sont dans ce milieu et qui ont vécu, qui sont heureux et heureuses dans leur vécu professionnel, mais qui ont vécu des viols. Et des viols, et quand ils sont allés ou elles sont allées les déclarer, la police leur a dit « Mais ma bonne dame, c'est les risques du métier !» Ben non, c'est pas les risques du métier. J'ai consenti à telle pénétration, à telle action, je n'ai pas consenti à ça, ce n'est pas les risques du métier. Si je n'ai pas consenti à cet acte, si on me l'a imposé, je suis violée. On m'a pris souvent par surprise. C'est ce que, par exemple, moi, le livre de Robin montre. Il y a du viol par surprise. Ça, c'est du viol, c'est intolérable. Par contre, qu'est-ce que je peux proposer pour que ces contrats soient pertinents? Alors, j'ai participé à un rapport qu'on présente la semaine prochaine pour dire, ben, techniquement, il y a toutes les conditions jurisprudentielles pour reconnaître un contrat de travail. Alors, soyons clairs, hein, 90% des pornos aujourd'hui ne sont pas produits par des maisons de production, c'est de l'autoproduction. C'est des actrices et acteurs qui font des collabs entre acteurs et actrices. La production par maison de production devient anecdotique dans la masse. C'est les acteurs et les actrices qui composent leurs scènes et qui vont les vendre sur des plateformes mimes ou autres avec un système d'abonnement qui leur permet de pérenniser leur revenu et d'avoir un peu de prise dessus. Mais pour ceux et celles qui continuent à tourner dans des maisons de production à des commandes de films, bah, les conditions retenues par la Cour de cassation sur le contrat de travail sont réunies. On a un lien de subordination, on a une activité de travail. C'est là où on n'est pas forcément d'accord sur est-ce que c'est un travail ou pas, mais je suis désolée, c'est peut-être parce que je suis un peu misandre, sucer des bites, pour moi, ça me paraît être un travail quand même, à plein temps. Et évidemment, on a une rémunération, puisque c'est le jeu. Alors, travailler sur les rémunérations, ce n'est pas le débat ici aujourd'hui, je ne le développe pas. Peut-être sur la version écrite, on en discutera. Mais moi, je dis, bon, on a les qualités d'un contrat de travail, ça veut dire application du droit social. Ça veut dire que j'invite, et je le dis régulièrement, aux actrices porno de se syndiquer. Et d'ailleurs, beaucoup le sont à la CGT, notamment artistes-interprètes, qui, contrairement à la CGT nationale, a des positions qui reconnaissent le travail du sexe comme étant du travail. Et de militer, si c'est un contrat de travail, les employeurs, donc les producteurs, ont une obligation de sécurité de résultat. Tout viol, toute agression, tout dépassement constaté devrait engager la responsabilité de l'employeur et de toutes les personnes responsables. Et comment je peux m'assurer aussi que on ne soit pas sur une situation d'emprise ? Mais moi, je milite depuis un moment pour des coordinateurs d'intimité et coordinatrices d'intimité, mais pas rémunérés directement par le cinéma. Je les veux indépendants, je les veux formés, je veux un fonds allégué, nourri par les maisons de production, qui permettra de les financer, qui leur permettra d'être là, pas seulement au tournage, pour s'assurer du suivi, mais dès la négociation du contrat, pour permettre de s'assurer que la personne a bien conscience, que la personne fait que ce qu'elle a envie de faire, et tout au long qu'elle est toujours OK avec les pratiques pour lesquelles elle a signé et pour lesquelles elle peut se départir sans indemnisation, avec évidemment une réflexion là aussi sur le consentement au long cours. Et notamment, moi je milite pour une cession du droit à l'image dans les contrats pornographiques limités dans le temps à 5 ans, renouvelable, et pas renouvelable par tacite reconduction, c'est-à-dire que 3 mois avant la fin des 5 ans, le producteur serait supposé contacter l'actrice, tous les acteurs qui y apparaissent. Est-ce que vous consentez toujours à ce que nous continuions à produire sur le marché du film votre film ? Si la personne ne répond pas, elle est présumée ne pas consentir et pouvoir récupérer à tout moment son droit à l'image pour pouvoir bénéficier de son droit à l'oubli. Et dans ce droit à l'oubli, notamment, comment s'assurer du consentement ? Ben, si on applique le droit du travail, on a un truc merveilleux qui s'appelle le compte formation. Beaucoup d'acteurs et d'actrices porno ont envie de se reconvertir. La réalité, et Nikita Bellucci l'a très bien montré dans son dernier film et dans ses interviews, quand tu veux te reconvertir en tant qu'actrice ou acteur porno, il y a le stigma. Il y a ce droit à l'image qui n'est pas contrôlable. Eh bien, si on a un compte formation, on peut déjà faire des formations financées parce qu'on a chalandé avec ce compte des heures. Et puis surtout, avec ce droit de retrait, on peut choisir aussi qu'on a été OK avec ce vécu d'acteur ou d'actrice porno et qu'aujourd'hui, ça ne correspond plus à ce que je suis et que j'ai plus envie que ce soit sur Internet et que je puisse m'opposer. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a un continuum des échanges économico-sexuels. Je ne sais pas si je rêve d'une société qui ne soit plus patriarcale. Je ne suis pas certaine que le fait de ne plus être dans une société patriarcale conduirait à ce qu'il n'y ait plus de porno, parce que je pense qu'on a besoin d'une fantasmagorie. Je pense que juste, ce serait plus démocratisé, que des hommes assumeraient d'en avoir rien à faire de la sexualité et que des femmes assumeraient d'aller vers ce type de sexualité, parce que je pense que c'est humain plus que genré. Mais peut-être suis-je dans le faux, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on est là avec la force de nos convictions et on essaie de faire notre travail avec honnêteté intellectuelle.
Merci beaucoup, Mélanie. justement, honnêteté intellectuelle, on est là pour partager, je répète ça. Donc, on va avec la troisième et dernière personne de ces blocs et dernière personne de cette journée de colloque avant de notre table ronde. Tanguy Granis, je viens de dire, c'est ça, qui est professeur agrégé de philosophie. Et il est l'auteur de deux articles sur le masculinisme pour la revue de Crieur et Nouvelles questions féministes. Donc, je te cède la parole.
Merci Laura Catala, merci à toutes les personnes qui ont organisé ce colloque et bien sûr merci au public. Je vais commencer tout de suite la lecture de mon intervention. Dans l'article « Quand céder n'est pas consentir », Nicole Claude-Mathieu cite en exergue cet extrait. L'oppresseur n'entend pas ce que dit son opprimé comme un langage, mais comme un bruit. C'est dans la définition de l'oppression. En particulier, les plaintes de l'opprimé sont sans effet, car naturelles. Pour l'oppresseur, il n'y a pas oppression, forcément, mais un fait de nature. Il s'agit là de la définition de l'opprimé de Christiane Rochefort. Ce qui retient bien sûr l'attention, c'est le fait que, quand bien même l'opprimé parviendrait à articuler à énoncer ses plaintes à l'oppresseur, celui-ci ferait la sourde oreille. Que beaucoup d'hommes ne traitent pas les femmes comme des sujets désirants, mais comme des objets sexuels, ce n'est pas une attitude qui est restreinte aux sphères masculinistes extrémistes. Je pourrais revenir ensuite dans la table ronde sur le mouvement incel, et je voudrais parler d'autres « nice guys », entre guillemets. Ce sont les hommes pro-féministes, qui s'interroge par exemple sur le consentement. On peut se demander pour quelles raisons des hommes s'engagent dans la cause féministe. Si à première vue cela semble être une bonne chose, les féministes peuvent légitimement avoir de la méfiance envers des hommes qui s'autoproclament alliés, dans la mesure où les hommes ne peuvent avoir qu'une vision partielle et partiale des enjeux féministes et du vécu des femmes. Dans le même extrait, cité dans « Quand céder n'est pas consentir », Christiane Rochefort poursuit. L'oppresseur qui fait le louable effort d'écouter, le libéral intellectuel, n'entend pas mieux. Cela n'engage pas à l'optimisme. Pour le chercheur Francis de Puydéry, cinq hypothèses permettent d'expliquer au moins partiellement le choix de l'engagement pro-féministe. Premièrement, un désordre d'identité sexuelle. En réalité, c'est une hypothèse antiféministe, visant à dénigrer les hommes pro-féministes. 2. Une éthique égalitariste. 3. L'affection à l'égard des femmes. 4. L'intérêt et la recherche d'avantages. Et 5. L'influence du féminisme. Chez les hommes qui s'autoproclament alliés des féministes, ces cinq raisons peuvent s'additionner, se croiser, parfois dans une même journée. Cependant, le facteur le plus important pour expliquer le choix d'un engagement pro-féministe et le rapport de force créé par les féministes qui mettent, par exemple, les hommes face à l'incohérence de leurs paroles et de leurs actes. Comme le dit l'adage, derrière chaque homme pro-féministe, il y a plusieurs femmes épuisées qu'il faut remercier. C'est dans cette perspective que je propose une hypothèse spéculative, mais une hypothèse de travail à la fois individuel et collectif, qui pourrait permettre aux hommes de jouer un rôle dans la lutte pour affaiblir la structure de pouvoir patriarcale, sans faire reposer tout l'effort sur les féministes. Il s'agirait de se saisir de l'enjeu du consentement par le biais d'une politisation de l'enfance. Mon hypothèse prend en effet racine dans une expérience que nous sommes très nombreuses et nombreux à avoir vécue. L'idée, qui m'est inspirée d'un article du philosophe Tal Peter Bromerx, consiste à voir dans les pratiques de remémoration de certains de ses souvenirs d'enfance une manière de conjurer l'oubli de sa condition d'enfant, celle de mineur, c'est-à-dire la situation de vulnérabilité et d'exposition au pouvoir, à la violence et à la contrainte exercée par les adultes. S'il y a bien une expérience de l'injustice vécue comme telle par de très nombreuses personnes, c'est celle de la condition d'enfant. En effet, le plus souvent, le corps de l'enfant ne lui appartient pas. Le plus souvent, le respect de son consentement ne compte pas. Comment, dans ces conditions, apprendre le respect des limites corporelles d'autrui ? Ce sont ces enfants dont on dit qui elles font du bruit. Et on dit aussi la vérité sort de la bouche des enfants alors qu'on ne les écoute pas. Les hommes ont un problème avec le consentement. Comment peut-il en être autrement dans une société où les corps des enfants et des personnes sexisées, féminisées, deviennent objets de plaisirs autocentrés ? L'hypothèse que je formule, avec encore une fois une dette immense envers les travaux de Tal Pitar-Bromerx, est qu'une pratique collective de remémoration de sa condition d'enfant pourrait participer d'une prise de conscience politique de sa vulnérabilité face au pouvoir, même lorsqu'on exerce à son tour soi-même ce pouvoir. L'enjeu est de comprendre que l'apprentissage du consentement est vicié bien avant le commencement de la biographie sexuelle d'un individu. Il s'agit aussi de sortir du déni de la réalité massive de l'inceste, berceau des dominations, pour reprendre l'expression de Dorothée Ducy, déni qui contribue au renforcement d'une culture de l'inceste dans la société. Il faut, je pense, commencer déjà par faire connaître largement les travaux de la Civise, à l'école par exemple. Je cite le rapport 2023, dont le rapporteur est le juge Édouard Durand. Il est, par essence, impossible de consentir à un inceste. On ne peut jamais faire comme si l'inceste ne se passait pas dans un contexte de domination et de pouvoir, quand bien même la victime pourrait en avoir l'impression. Et un rapport d'autorité, de droit ou de fait, compromet toujours l'agentivité d'une victime. C'est maintenant sur cette question de l'agency, l'agentivité aux capacités d'agir, que je vais centrer la suite de mon propos. Dans un premier temps, donc, je poserai le problème de cette intervention, la disjonction, pas nécessairement exclusive quand on pose le problème d'une politisation du consentement chez les hommes, entre agency et désempouvoirment, disempowerment. Je rappellerai brièvement comment l'agency a été conceptualisée dans un contexte féministe, puis je poserai la question de savoir ce que l'on peut gagner à parler de capacité d'agir des hommes dans le cadre d'une réflexion sur le consentement, pour enfin proposer l'idée d'une politisation de l'enfance pour sensibiliser les hommes à la notion de justice sexuelle. Pour commencer, quelques précisions. D'abord, je parle en tant que philosophe. Je pose le problème de savoir à quelles conditions il est possible de tenir un discours sur la capacité d'agir des hommes sans tomber dans une forme de symétrisation avec l'agency des femmes. Mon propos n'est pas sociologique, même s'il s'appuie sur une littérature sociologique, encore rare sur le sujet de l'intégration des critiques féministes du consentement sur la biographie sexuelle des hommes. Je cite la définition que donne la sociologue Alexia Boucherie. Je m'attendais davantage à entendre cette référence. Donc là, je cite « Trouble dans le consentement » d'Alexia Boucherie. « La biographie sexuelle est une expression utilisée en démographie pour l'étude des comportements sexuels et désigne chez un individu une alternance de relations sexualisées et de périodes éventuelles d'inactivité sexuelle. Cette biographie débute lors de l'initiation sexuelle qui correspond au premier rapport avec partenaire et comprend le nombre de partenaires sexuels et la durée passée en relation sexuelle. Or, on voit que le consentement est absent de cette définition. Comme l'écrit encore Alexia Boucherie, l'initiation sexuelle peut être une relation sexuelle non consentie, donc subie. MeToo constitue une scène très intéressante à partir de laquelle on peut poser toute une série de questions sur la capacité des hommes à changer ou non. Par exemple, peut-on d'ores et déjà observer chez les hommes un changement positif vers plus de compréhension réflexive des mécanismes de la violence masculine, ou bien assiste-t-on plutôt à un raidissement des positions virilistes et patriarcales ? Donc, je renvoie ici à l'article d'Emmanuel Santilli et Barbara Bloom. Questionner l'influence des idées féministes sur la sexualité masculine hétérosexuelle vers l'émergence d'un nouveau modèle de masculinité, point d'interrogation. Je retiens de ces travaux sociologiques que l'influence de MeToo sur les hommes cisgenres hétérosexuels est très située socialement. Les retours réflexifs se produisent très souvent chez des hommes de classe moyenne et supérieure, ayant fait de longues études, et qui veulent se démarquer de l'image viriliste de la masculinité traditionnelle, pour le dire vite. On observe avec MeToo et dans son sillage une tension entre détraditionnalisation des dimensions genrées de la vie sociale, de la vie sexuelle et des identités, et une résistance à cette détraditionnalisation. C'est-à-dire que l'on aurait d'un côté une reconfiguration de la masculinité hétérosexuelle vers une masculinité qui se veut plus empathique, plus à l'écoute des désirs des femmes, bref, qui prendrait davantage en compte l'enjeu du consentement, et d'un autre côté, une résistance à cette détraditionnalisation à travers des discours réactionnaires, masculinistes, qui envahissent les réseaux sociaux. Pour résumer, je suis très sceptique sur les effets de l'intégration des critiques féministes, des violences sexistes et sexuelles masculines dans la biographie sexuelle des hommes. D'un côté, le backlash est puissant, avec une réelle visibilité des discours antiféministes et masculinistes. Et de l'autre, je crois que la masculinité hégémonique, cisgenre, blanche et hétérosexuelle, a une capacité à intégrer ces critiques pour se reconfigurer et maintenir son pouvoir. C'est l'idée, par exemple, qu'il ne suffit pas de s'assurer, par exemple verbalement, du consentement de sa partenaire sexuelle pour arrêter d'être en position de pouvoir. Si l'agentivité sexuelle des hommes a à première vue une portée limitée, faut-il donc se tourner vers le concept de désempouvoirment ? Selon les dictionnaires anglophones Oxford et Collins, le disempowerment désigne ce qui consiste à rendre un individu, un groupe, moins puissant ou moins confiant, ou à priver un individu de pouvoir ou d'autorité. Il s'agit donc de rendre les hommes, en tant qu'individus ou groupes, moins puissants, de relativiser leur autorité. Ce processus peut être initié par certains hommes pro-féministes, mais comme je l'ai déjà précisé, c'est un travail souvent porté par des féministes qui confrontent ces hommes. Or, je voudrais maintenant défendre l'idée qu'il n'y a pas de contradiction s'agissant des hommes à parler à la fois d'agentivité et de désempouvoirment, justement, pour que les féministes ne fassent pas tout le travail. Cette idée ne va pas de soi, car la notion d'agency a une histoire précise qu'il faut restituer précisément au sein des études sur le genre et des études féministes. Dans ce contexte, agency est une notion liée à celle d'empowerment. Autre terme difficile à traduire, empouvoirment, prise de pouvoir, autonomisation du sujet. En posant la question de la manifestation du choix dans une société hiérarchisée, la question des marges de liberté au sein des relations de pouvoir, l'agency est aussi au cœur de l'enjeu du consentement, plus précisément de sa politisation, comme l'écrit Geneviève Fraisse dans Du consentement. La critique féministe du consentement rejoint une autre critique, celle du sujet volontaire, transparent à lui-même. Dans une perspective post-structuraliste, par exemple, le sujet est constitué dans et par un assujettissement aux normes qui établissent une capacité d'agir, par exemple des normes de genre. Judith Butler décrit bien cette ambivalence dans la constitution du sujet, on peut parler aussi du sujet consentant, quand Yael écrit que celui-ci émerge à la fois comme l'effet d'un pouvoir antérieur et comme la condition de possibilité d'une forme radicalement déterminée de capacité d'agir. On comprend bien que ce que cela signifie dans une perspective d'empowerment, d'autonomisation individuelle ou collective, mais quel sens y a-t-il à parler de capacité d'agir pour des individus qui ont déjà le pouvoir, c'est-à-dire les hommes participant d'une masculinité hégémonique ? On peut invoquer plusieurs arguments. Tout d'abord, Francis Dupuy-Déry précise dans son petit guide de disempowerment pour les hommes pro-féministes qu'il ne s'agit pas pour les hommes de perdre en capacité d'agir en tant qu'être humain, mais de réduire en tant qu'homme le pouvoir qu'ils exercent sur les femmes. On peut aussi, ensuite, se détacher d'une perspective émancipatrice téléologique, souvent attachée à cette notion d'agency, et assumer de parler de capacité d'agir non pas comme d'une résistance frontale au pouvoir, mais comme une négociation avec les normes. Position que défend Saba Mahmoud dans son ouvrage « Politique de la piété ». La notion d'agency aussi, ainsi considérée doit nous conduire à rester toujours attentive aux contextes sociaux, à faire attention aux conditions de la pratique, comme l'écrit aussi Geneviève Fraisse, citant là Judith Butler. Enfin, la notion d'agency est utile pour éviter de réifier le pouvoir. Celui-ci circule et s'exerce en situation. D'où l'intérêt à parler de consentement situé, comme le fait Alexia Boucherie, plutôt que quelque chose que le sujet possède a priori. Pour terminer, je voudrais montrer quelle forme pourrait prendre l'agency des hommes. Une agency qui les constituerait en sujet de consentement. Je tiens à préciser que même si je reste sceptique face à la capacité des hommes à changer, malgré toute la bonne volonté qu'ils pourraient avoir, des marges de manœuvre existent, par exemple dans une perspective de politisation de l'enfance. Dans son article, Tal Peter Bromerks propose de conjurer l'oubli de l'enfance de façon collective, à partir d'ateliers directifs et du tissage des souvenirs particuliers de l'enfance, pour faire apparaître un tableau général et politique de l'enfance. Tout se passe en effet comme si le fait de devenir adulte ne pouvait être possible que par cet oubli de certains de ses souvenirs d'enfance, des souvenirs parfois traumatisants, pour exercer à son tour du pouvoir. À partir de cette pratique de remémoration collective, il s'agirait aussi, même si ces ateliers n'en constituent pas un garde-fou, d'éviter l'écueil de l'idéalisation de l'enfance, la construction de l'innocence de l'enfance. Au contraire, l'objectif est aussi de contrer cet oubli de l'enfance en impliquant les enfants dans l'opération de saisie des cadres politiques des rapports de pouvoir adulte-enfant et leur donner la capacité de pouvoir nommer ce qui se déroule, par exemple, dans les violences incestueuses. En conclusion, je propose de comprendre l'enjeu du consentement dans la perspective plus globale de la question de l'agency. L'agentivité ne se résume pas à un simple agir effectif, mais est à comprendre également dans toute son épaisseur temporelle, dans ses dimensions à la fois cognitives et affectives, qui pourraient permettre de penser, pour les hommes, à quelque chose comme la constitution d'un sujet de consentement. Les pratiques de remémoration collective de certains de ces souvenirs d'enfance peuvent en effet être lues comme une manière de reconnaître la vulnérabilité de son identité masculine, à condition toutefois que cette prise de conscience ne soit pas vécue individuellement, mais dans un cadre collectif, par exemple, où on prendrait soin les uns des autres. Merci.